Bonjour à tous. Comme je vous l'ai annoncé, le podcast que vous suivez depuis plusieurs mois change doucement de cap et se diversifie. Plusieurs chroniques inscrites sous le label hors-série ponctueront donc mon récit et poseront un regard différent sur mon travail, que dis-je, ma passion pour l'écriture, les sons et la musique. J'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez récompenser mes efforts, vous pouvez me soutenir en faisant un don depuis la page Ko-fi ou Stripe notée en description. Votre contribution, même modeste, m'aidera infiniment et je vous en remercie. Alors, sans plus attendre, je vous invite à écouter un chapitre sans numéro intitulé « Mektoub, c'est écrit ». Me voilà face à un problème. L'épisode 33, épisode maudit, celui qui fait chuter les plus persévérants, les plus motivés, les plus talentueux. Car c'est bien connu, ce sont les meilleurs qui tombent au champ d'honneur de la page blanche, du clavier muet et de l'écran mis en veille. Il y a quelques semaines, j'ai hésité à réaliser mon annonce pour solliciter vos dons. Je cherche à valider mon travail plus qu'à en vivre. Le résultat, critique et décevant, disons-le franchement. Entamer le chapitre 33 se présente donc sous de mauvais augures, comme un orage qui pointe et installe ses nuages avant d'éclater. L'amour dure 3 ans, selon Dominique Becbédé. Un podcast se limite-t-il à 30 épisodes? Une saison achevée et une seconde difficile à mettre en route, toute série finit par se déliter, du moins manifester des traces d'épuisement. Le labeur ne se suffit plus à lui-même, entre les mains d'un auteur condamné à se répéter et à se parodier. Les bruitages contribuent à cette lassitude, les sons renvoient aux mots et inversement dans des boucles par trop prévisibles. Je me souviens de ce chevalier à l'armure étincelante se présentant au pied de l'oracle sudérien. « Oh, je vous vois d'ici sourciller, sourire en coin !» À l'évocation de cette référence d'un passé aussi lointain que mon âge, au demeurant pas si avancé, faut quand même pas exagérer. Je vous parle d'un film et d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, à moins qu'ils soient épris de mode des années 80. Ne riez pas, j'en connais qui écoutent encore le groupe Téléphone en sachant pertinemment qu'il ne s'agit pas de leur portable. L'histoire sans fin de Wolfgang Petersen est le premier opus d'une série de 3 films adaptés du roman de Michael Ende. Et force est de reconnaître que ce premier volet aura profondément marqué ma tumultueuse jeunesse. Métaphore, noblesse des sentiments et quête épique, tous les ingrédients sont réunis pour influencer l'adolescent sur le retour de 20 ans que je suis à l'époque. Comment décrire ce choc autrement qu'en plagiant lamentablement Alain Finkielkraut? Il n'aura pas trop de sa vie entière pour apprivoiser la violence de cette révélation. Une citation extraite de son livre « Le Juif imaginaire », page 10 en l'occurrence. Car oui, le cinéma comme la littérature donne un sens au présent, justifie l'existence sans lequel une éducation, même mauvaise, ne saurait être complète. L'histoire sans fin développe des valeurs profondes. Je parle des valeurs que mes parents ont omis ou négligé de m'inculquer. Celles qui modifient notre vision du monde et permettent d'avancer chacun pour soi vers l'âge adulte. Le courage, l'honnêteté, la fidélité, la persévérance et autres joyeusetés que les imbéciles jugent inutiles ou ridicules dans une société tout entière vouée au profit. Ainsi, l'oracle sudérien représenté par 2 sphinx au regard perçant marque une étape essentielle, une épreuve à laquelle le héros doit se soumettre avant de progresser et vaincre les périls. L'homme incrédule et sans rêve se laissera-t-il envahir par le néant? Pourquoi la jeune impératrice de Fantasia semble-t-elle aussi âgée en réalité? Pourquoi est-il si difficile à Bastien, le héros, de prononcer le nom du monde imaginaire pour lequel il affronte le néant? Alors que des milliers de spectateurs hurlent ces 3 syllabes dans leur télécommande. Enfin et surtout, comment rebondir sur mon sujet et dépasser mon désarroi? La nostalgie ne m'a été d'aucun secours. Peut-être le problème de la page blanche se situe-t-il dans le nombre lui-même, 33, dont la physionomie et le sens s'inspirent de nombreuses théories. 33, nombre particulier pour sa résonance, sa dualité, sa ternérité. Oui, je sais, j'invente des mots. Conflit, opposition, équilibre perdu. Mon littré s'épuise à décrire ma perdition. Pourtant, 33 est là, fier comme un palindrome et aussi cruel qu'un miroir. Or, j'ai pris conseil. Les révélations ont fusé telles des sagaies zoulous au flanc des uniformes rouges des envahisseurs blancs. Une image audacieuse qui ne veut strictement rien dire, j'en conviens. Les lectures de ma détresse ont été innombrables. Qui de me certifier les yeux brillants et l'occiput gonflé de connaissances ésotériques que la somme théosophique de 33 et 6, ce qui, entre nous, est à la portée d'un enfant de l'école primaire. Alors je dissimule ma perplexité et me concentre sur des arguments plus savants, en apparence du moins. L'histoire du sceau de Salomon, formée de deux triangles opposés et superposés pour symboliser la rencontre de deux mondes ou de deux énergies matérielles et spirituelles. Jolie présentation comparable à l'association de l'équerre et du compas maçonnique. La géométrie et les mathématiques sont étonnantes. On peut leur faire dire n'importe quoi sous couvert de pseudo-sciences. Des initiés à la voix forte et aux doutes résolus m'ont expliqué trois têtes au-dessus de la mienne que si je n'y comprenais rien, c'était uniquement parce que moi, profane à l'intelligence d'une huître, n'étais pas encore digne de leur savoir. Et pour cause, 33 serait le nombre lié à l'initiation, autrement dit aux initiés eux-mêmes, adeptes des cercles les plus fermés. En franc-maçonnerie, ne distingue-t-on pas 33 degrés au rite écossais ancien et accepté, le premier étant celui d'apprenti? Parmi ces grands de l'univers, Jésus, si tant est qu'il n'eût jamais exprimé le désir qu'on lui colla l'affriolant tablier, aurait été crucifié à l'âge de 33 ans, après avoir accompli 33 types de miracles. Plus près de nous, Béranger Saunière aurait découvert le trésor de Rennes-le-Château, je vous en fais le pari, à 33 ans. Pourtant, les érudits le confirment tous, 33 est le nombre de l'aboutissement, celui de l'éveil, de la réalisation de soi, aussi bien matérielle que spirituelle. Sous nos pieds, la triade, la terre, l'homme et le ciel, au-dessus de nos têtes, vide, et bien plus haut, la Sainte Trinité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans la Bible, les 33 années du règne de David, dans l'islam, ceux qui seront au paradis auront 33 ans. Magie, coïncidence, vaste porte nawak, tout est dit, rien n'est prouvé. Le symbole se substitue au réel, mais ne nous fâchons pas pour de menus détails. J'avoue mon ignorance et recule d'un pas. Ces grands esprits argumentent au présent et usent de l'impératif en des termes prédictifs, voire menaçants, aussitôt qu'on leur oppose nos doutes. Ma méfiance naturelle me convainc de considérer tout ceci au conditionnel. Mon infortune me renvoie à ce nombre, pour le meilleur comme pour le pire. Humblement, je songe au laconique dit 33, prononcé par mon vieux médecin de famille. Je me souviens de l'achat de mon premier vinyle 33 tours, Sgt. Pepper des Beatles, sur lequel, tel Bastien dans l'histoire sans fin, je cherche à poser un nom sur les visages collés derrière John, Ringo, Paul et George. Je pense aux 33 centilitres de ma première canette de bière, fauchée dans les rayons de l'Intermarché en face de mon lycée. Je sens mes 33 vertèbres, dont deux démises. Je calcule les tiers arrondis, 33%, et me demande toujours ce qu'on a bien pu faire du 1% restant. Et puis, rappelons-le, avec une certaine inquiétude, au Japon, il porte la poisse. Il signifie « malheur sans issue ». Malheur sans issue. Nous y voilà. Mon projet ne consiste nullement à justifier la réalité. Le réel dispose de sa force propre, sans qu'il soit utile d'y joindre des agents magiques, mystiques ou imaginaires. Non, ce n'est pas parce que Jésus s'est trouvé accroché à une croix à 33 ans que j'échoue à composer mon 33e chapitre. La raison, je la connais. Aurais-je d'ailleurs le courage de la livrer ? À l'heure où je vous parle, vous vous trouvez chez vous, vos écouteurs d'iPhone dans les oreilles, ou bien dans votre voiture, dans le bus, que sais-je. Les Arabes disent « Mektoub », c'est écrit, alors je cherche ailleurs. Si je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Si mes pages restent vides, c'est la faute à la Covid. 18 mois de confinement ont produit leurs effets, et foi d'Asperger, se couper du monde à ses limites, même dans le mien. Personne ou presque pour me tourmenter, me rendre la vie insupportable, réduire mes rapports humains. Ce n'est plus moi qui est asocial et dépourvu d'empathie, c'est le monde qui se ferme pour des raisons légitimes. Ce sont des villes, des campagnes, un pays aux ordres des institutions sanitaires qui recommandent l'isolement et la distanciation. Mais que devient la création sans sa substantifique moelle, le réel, la vie ? Créer à partir de rien, du vide, est impossible. Il faut trouver l'inspiration, noter l'anecdote, l'image, le petit quelque chose, couleur ou son, phrase ou visage, rencontre ou rupture qui serviront de ciment à l'autre histoire, imaginaire ou autobiographique, que je tente d'écrire. Imaginons-nous un instant dans la peau de Will Smith, dernier vivant au cœur des cités désertes du film « Je suis une légende ». Quel espoir lui reste-t-il, sauf peut-être celui de retrouver ses semblables et finalement retourner au monde des vivants ? Citation exagérée ? J'en conviens, car le Japon, jusqu'alors épargné par la Covid, continuait à vivre normalement et débordé d'une foule masquée et saine. Et puis, les officiels des Jeux Olympiques, blindés de yens et de dollars, ont débarqué tels des conquistadors évangélisateurs. Il n'y a aucun risque de contamination de la part des participants aux Jeux, proclame l'œil bleu et le masque ajusté sur son nez, le président du comité olympique. Les sponsors exultent et l'argent pleut comme des cendres noires sous le regard hébété d'une population entraînée à obéir. En l'espace de quelques semaines, le nombre de contaminés a été multiplié par 10. Sans qu'aucune assistance ne soit offerte aux victimes contraintes de se soigner à domicile et par leurs propres moyens. Pendant ce temps, des invertébrés, surmédicalisés et bourrés hommes et femmes de testostérone lèvent leurs cuisses tatouées des 5 anneaux sous le regard aimant de Coca-Cola, Dow Chemical, Alibaba Group, entre autres bienfaiteurs du genre humain. Tokyo 2020, unis dans l'émotion. Mais je m'égare, ou peut-être pas. La colère et l'indignation ne contribuent pas à construire une histoire aussi courte soit-elle à l'échelle d'un podcast. Alors, cherchons ailleurs. Le port du masque ne devrait plus m'étonner. Tel Kevin McKeown, alias Pink, pris au piège d'un tunnel au passage d'un train dans le film d'Alan Parker « The Wall » des Pink Floyd. Les visages hideux des voyageurs me hantent depuis l'enfance. Sous les rectangles chirurgicaux, rien de nouveau. C'est le monde qui a changé. Le mien a gagné sur le vôtre. Et je pourrais, devrais ou ferais mieux de me sentir heureux comme ça. Or, le bonheur ne crée rien de bon à part quelques mièvreries, c'est bien connu. Ce sont les malheurs qui inspirent. L'insupportable porte ces mots en images et en sons au service des œuvres les plus belles. Que serait Maupassant sans sa folie, Baudelaire sans sa mélancolie ? Nous sommes le 30 avril 1891, en Abyssinie, appelée aujourd'hui le Yémen. Rimbaud vient de tomber malade. Il écrit cette lettre dans sa chambre de l'hôpital d'Aden. Depuis une vingtaine de jours, j'étais couché à Harar et dans l'impossibilité de faire un seul mouvement, souffrant de douleurs atroces et ne dormant jamais. je louai 16 nègres porteurs à raison de 15 talaris l'un. Je fis fabriquer une civière recouverte d'une toile, et c'est là-dedans que je viens de faire en 15 jours les 300 kilomètres de désert qui séparent les monts du Harar du port de Zeila. Inutile de vous dire quelles souffrances j'ai subies en route. Je n'ai jamais pu faire un pas hors de ma civière, mon genou gonflait à vue d'œil et la douleur augmentait continuellement. Enfin, au point où j'en suis arrivé, il ne faut espérer que je guérisse avant au moins 3 mois, sous les circonstances les plus favorables. Et je suis étendu, la jambe bandée, liée, reliée, enchaînée, de façon à ne pouvoir la mouvoir. Je suis devenu un squelette, je fais peur. Indescriptible souffrance, moment terrible de dépression, mais aussi de lucidité. Nul n'est plus dans le vrai que celui ou celle qui touche le fond, et silence aux cons, qui prétendent qu'un seul coup de talon suffit à nous faire remonter. Alors bien sûr, je ne suis pas Rimbaud, ni même écrivain, et je m'accroche à ce chapitre parce que le poète a trouvé la force de convenir de sa déchéance et qu'il me faut à moindre risque tenir mes engagements. Le bonheur ne se reproduit pas lui-même. Il s'épuise, s'habitue, se fane, alors que le malheur, dans toute sa majesté et à l'instar de la laideur, perdure. Le mal recouvre de son réalisme les langueurs infécondes des bons sentiments. Depuis le diagnostic de mon syndrome, mes symptômes, autrefois handicapants et terrifiants, se sont installés dans une sorte de routine. Ils se sont normalisés et s'écoulent à un débit moyen, acceptable et infiniment plus contrôlable. Voilà la raison d'un tel examen. À défaut de pouvoir se soigner, et semblable au monde de Fantasia dans l'histoire sans fin, le syndrome d'Asperger se laisse amadouer, une fois son nom prononcé. Certes, j'ai comme vous l'habitude des délais plus ou moins longs entre chaque publication. Couper le fil de mes récits pour y revenir quelques semaines plus tard. Je travaille lentement. Mais je souhaite installer des situations originales, rompre avec les schémas narratifs traditionnels, inventer de nouveaux personnages. Dans ma tête, et par-delà le confinement que vous vivez aujourd'hui et qui est le mien depuis mon enfance, j'aspire à rester en action et perpétuer le mouvement engagé il y a 32 épisodes. Je désire un chapitre dépourvu de nombres, sans intellection ni longueur, une étape au récit initiatique qui se déroule dans ma tête mais que je ne parviens pas à saisir. Mektoub, c'est écrit, serait un titre idéal. Le tracé d'un grand tournant reste à dessiner. Lesser Weiss, héroïne de mon récit qui n'est pas encore un roman, par le fait justement que je bute à rédiger ce chapitre, se dirige vers Osaka, porteuse des cendres de leur père. Leur Skoda orange file à l'allure d'un escargot dans la moiteur électrique d'un typhon, le Japon subitant depuis plusieurs années. Les deux femmes rencontrent ceux qui partageront leur quête, amis ou ennemis. Elles commencent à comprendre les règles du jeu imposées par leur père et s'apprêtent à subir des épreuves qu'elles n'imaginent pas, et moi non plus. Sous mes yeux, un mot, chapitre, suivi d'un nombre, 33. 33, comme un 8 coupé en deux, une figure aux possibilités infinies, mais brisée et dépourvue de sens. J'ai abandonné mes héroïnes et leurs suiveurs au bord du chapitre 31, sur un air d'autoroute. Que vont-elles penser de moi ? Alors dépassons les frontières du jour et de la nuit, de la parole et du silence, entre réel et imagination, entre la raison et la folie, les actes signifiants et l'arrêt de toute chose, la vitesse et l'immobilité, la froideur lunaire du souvenir et l'incandescence d'un nouveau jour qui se lève. Rimbaud n'est pas mort 33 jours après avoir été admis à l'hôpital de Aden, mais le 10 novembre 1891, soit 194 jours plus tard. Laissons là cet infâme chapitre 33 et lançons-nous tout de suite dans le chapitre 34.
À suivre.
Au fait, j'y pense. Comme ça, hein. 34. Dante consacrait 33 chants de sa Divine Comédie au purgatoire et au ciel, et 34 à l'enfer. Le mot diable est employé 34 fois dans la Bible. Les noces d'ambre célèbrent 34 années de mariage, ce qui renvoie exactement la même chose. Et puis la règle 34, selon laquelle tout sujet publié sur Internet